Alors, on a présenté M. Barabé cette semaine le 14e bilan des directeurs de la protection de la jeunesse. Dans la région, les signalements ont été en légère baisse avec 8668 signalements quand même, tout de même, dont 38% qui ont été retenus. Quelles ont été les problématiques majeures pour 2016-2017?
Ce qui est nouveau, je dis nouveau, c'est parce que c'est la première fois que cette problématique-là devient la principale. Ce sont les situations d'abus physiques et de risque d'abus physiques. Alors, ça, c'était, je dirais, le principal motif de signalement. C'est presque le tiers de nos signalements qui sont entrés, qui concernent cette problématique-là. Et suivi, évidemment, de la problématique qui a toujours et qui demeure celle dans laquelle on reste le plus impliqué, celle des cas de négligence ou risque de négligence.
Qu'est-ce qui fait que cette problématique-là vient prendre de l'ampleur dans la région?
Les abus physiques?
Oui, exact.
C'est une bonne question, je vous dirais. On a fait le constat plus ce printemps de tout ça, alors qu'on était en même temps dans une période assez tumultueuse en termes d'entrée de signalement. Alors, on n'a pas, en ce moment, fait vraiment une analyse pour essayer de bien comprendre le phénomène. C'est sûr que l'abus physique, c'est un phénomène qui a toujours été parmi les plus signalés. C'est aussi un contexte où on sait, dans le genre de société qu'on évolue, il y a quand même une violence qui est présente, qui est présentée aussi dans les médias, que ce soit à la télé, au cinéma. On sait aussi qu'on a des familles qui vivent énormément de pression, toutes sortes de pressions, que ce soit financière, que ce soit des relations de couple difficiles. Et le constat qu'on peut faire, par contre, c'est que c'est pas des situations qu'on va faire les enquêtes, on va constater que les faits sont fondés, c'est-à-dire que oui, il y a eu des situations d'abus, mais c'est des situations pour lesquelles on reste rarement impliqué à long terme. Donc, c'est souvent des événements isolés pour lesquels, lorsque nous, on intervient puis qu'on offre certains services aux parents, parce que, dans le fond, le message qui est derrière ça, c'est la famille vit des difficultés, le parent perd patience, pose un geste que la majorité du temps, il va regretter de façon importante. Puis après ça, ben on va apporter, soit nous ou soit des services dans la communauté vont apporter du soutien à cette famille-là pour éviter qu'il y ait des récidives. Alors, puis jusqu'à présent, je vous dirais qu'à cet égard-là, ça représente seulement qu'à peu près un petit peu moins de 10% des cas que nous prenons en charge versus le tiers de ceux signalés. Donc, ce qu'on comprend, c'est l'aspect de phénomènes isolés que ça peut représenter, puis l'importance de sensibiliser les parents et de les accompagner. Alors, dans un monde idéal, c'est que les parents, avant d'en arriver là, s'ils pouvaient peut-être s'adresser directement aux services qui sont disponibles dans la communauté pour se faire accompagner et éviter qu'ils passent à l'acte, ça serait ce qui serait dans le meilleur intérêt des enfants et de leur famille.
Dans la majorité des cas, des signalements retenus par des problématiques d'abus physiques, de négligence, il y en a beaucoup qui touchent là, les 6 à 12 ans. Combien de ces enfants-là sont vraiment retirés de leur milieu dans la région des Laurentides?
Bien, je ne peux pas vous parler spécifiquement des enfants de 6-12 ans, mais je peux vous parler de façon générale sur l'ensemble des enfants auprès de qui on intervient. Alors, on a constamment, je vous dirais, tous les jours, environ 2500 enfants qui font l'objet d'une intervention de la part du directeur de la protection de la jeunesse à quelconque niveau, là, c'est-à-dire soit à l'étape de vivre l'évaluation ou des enfants carrément pris en charge. Des enfants carrément pris en charge, il y en a environ 2000, puis on a toujours environ 500 ou 600 enfants sont en cours d'être évalués. Mais au total, sur ces 2500-2600 enfants-là, on en a environ 900 qui sont placés, dont 600, à peu près 650 qui sont placés dans des ressources de type familial, là. Communément, ce qu'on appelait un certain temps des familles d'accueil.
des familles d'accueil. D'ailleurs, vous le disiez, Monsieur Barabé, au cours de ce bilan-là, il y a une nouveauté, je crois, au cours des dernières années, en tout cas depuis la réforme des deux dernières années. On essaie de plus en plus d'aller chercher des gens autour de ces enfants-là, donc des ressources vraiment au sein de cette famille, des gens autour.
Bien, en premier lieu, notre mandat à nous, c'est de tout faire pour que l'enfant puisse rester dans son milieu familial. Le parent demeure toujours le premier responsable de son enfant. Quand c'est pas possible de procéder ici, notre deuxième priorité, puis c'est la loi qui nous l'impose, puis c'est très bien comme ça, c'est de regarder dans l'entourage de l'enfant s'il y aurait un tiers significatif, puis tiers significatif au sens large, c'est-à-dire ça peut vraiment être un membre de la famille élargie, un oncle, une tante, grand-parent, mais ça peut être aussi la meilleure amie du père ou de la mère, ou carrément les parents du meilleur ami de l'enfant. Alors, on a l'obligation de faire ce tour d'horizon-là pour identifier un tiers significatif qui, possiblement, accepterait de s'impliquer dans la vie de l'enfant pour l'héberger puis l'accompagner dans ce qu'il est en train de vivre comme difficulté avec son milieu familial.
On voit la provenance des signalements traités au sein de la région. On voit que la plupart des signalements sont signifiés par des employés de différents organismes, que ce soit des organismes communautaires, garderies, CI3S. Qu'est-ce qui est particulier dans cet aspect-là des signalements?
Bien, en fait, je vous dirais que c'est... l'analyse qu'on peut en faire, c'est que la majorité des signalements, il y a très peu de signalements qui viennent directement du milieu familial ou de l'entourage de l'enfant. La majorité des signalements viennent d'organismes incluant des employés du Centre intégré de santé et services sociaux qui gravitent autour de ces familles-là, que ce soit le milieu scolaire, que ce soit la garderie. Donc, c'est signe que il y a des services qui s'impliquent autour des enfants et que ces services-là sont vigilants dans le fond, et vont nous rapporter les situations. Évidemment, les professionnels, ceux qui sont membres d'un ordre professionnel, ils ont une obligation légale de signaler quand ils constatent qu'un enfant est en difficulté. Mais outre cette obligation-là, moi, je pense que les gens, maintenant, sont assez sensibilisés au rôle de la DPJ et à l'importance d'accompagner ces enfants-là, que nous recevons nos signalements, puis on se rappellera que de toute façon, à chaque personne qui signale, nous allons garder son identité confidentielle, puis elle ne sera jamais transmise aux parents. Donc, c'est un moyen aussi de rassurer les personnes qui écoutent, c'est une garantie qu'on leur donne, et c'est une obligation légale que nous avons à
garder là, cette confidentialité-là, finalement.
Garder la confidentialité, c'est ça.
Dans la région des Laurentides, c'est la quatrième plus grosse région au Québec en termes de population jeunesse. On dit 114 208 enfants âgés entre 0 et 17 ans. Est-ce que les services sont suffisants pour répondre aux besoins de ces enfants-là chez nous?
C'est une très bonne question. Est-ce qu'ils sont suffisants? Moi, je pense que ça dépend du besoin des enfants, mais ce qui est très clair, c'est que la région des Laurentides a été une région qui a été sous-financée en termes de services sociaux, services de santé. Le gouvernement travaille actuellement à ajuster et à bonifier les services. Évidemment, on ne se plaindrait pas si le ministère nous annonçait de nouveaux développements budgétaires. C'est sûr que, je dirais, le grand changement qu'on a vécu, la grande transformation du réseau, à mon avis, à moi, a eu pour effet, et je vous dirais à mon avis, mais plus dans la perspective du travail que j'ai à faire, a eu un effet positif de faciliter l'accès à une gamme de services pour... parce qu'on parle beaucoup des enfants, mais vous savez, les situations, l'exemple que je donnais, je discutais d'ailleurs ce matin avec des gens, l'exemple que je donnais, c'est une famille négligente parce qu'on a une maman qui a des problèmes, par exemple, de santé mentale, ben c'est pas les services jeunesse qui ont besoin de soutenir cette maman-là, mais c'est beaucoup plus les services de santé mentale de la région qui doivent s'impliquer. Alors, je pense qu'on a une responsabilité, nous, comme à la protection de la jeunesse, mais aussi maintenant, ça donne un sens encore plus grand à protéger un enfant, c'est une responsabilité collective, c'est l'ensemble des services du Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides qui sont interpellés quand un enfant est signalé parce que les problèmes que vivent ses parents, c'est souvent d'autres directions que la mienne qui peuvent offrir cette gamme de services-là pour répondre à leurs besoins.
On parle de ces besoins, on peut pas passer à côté de parler des intervenants sociaux qui sont directement, eux, sur le terrain et qui vont aider ces familles-là, aider ces enfants-là qui sont parfois à risque. Les intervenants, semble-t-il, sont à bout de souffle. Est-ce que la charge de travail est trop grande? Est-ce qu'il faudrait plus d'intervenants sociaux sur le terrain?
Bien, on a, au cours de la dernière année, ajouté des effectifs sur une base permanente. Quand je vous parlais d'un ajout de financement tout à l'heure, on a quand même eu un ajout de financement de la part du ministère qui est important, tant dans les services de proximité, donc de services de CLSC, qu'à la Direction de la protection de la jeunesse. Est-ce qu'il y a un essoufflement? Parfois, il y a un essoufflement. Vous savez, c'est un travail complexe, travailler en protection de la jeunesse. On côtoie quotidiennement continuellement des familles en difficulté. Alors, ce qui est remarquable, par contre, c'est comment les intervenants y mettent leur cœur et leur âme à aider ces gens-là. Il y a un engagement incroyable que je souhaite souligner de la part de ceux qui œuvrent. Pas juste en protection de la jeunesse, mais aussi dans les services de proximité auprès des familles en difficulté. Et je pense que c'est l'effort collectif de ce monde-là qui va possiblement nous permettre de faire qu'on va avoir des familles un peu plus stables qui vont vivre moins de difficultés dans le futur. Faut à tout le moins, moi, c'est cet espoir-là que je porte comme directeur de la protection de la jeunesse.
Dans le cadre de ce 14e bilan annuel, l'ensemble des directeurs de la protection de la jeunesse au Québec souhaitait aussi sensibiliser la population aux réalités reliées à l'adolescence, qui est une période pas toujours facile. Ces adolescents-là confiés au DPJ, on le dit même dans les communications, plusieurs visages. Qu'est-ce que vous voulez passer comme message auprès de la population face à ces ados-là?
Bien, en fait, on a souvent parlé de crise d'adolescence. Moi, je pense, j'aime pas parler de crise, mais comme beaucoup plus une étape de vie. Il y a beaucoup d'étapes dans la vie d'un individu, de la naissance au décès. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent où on se développe, puis on se construit en fonction de ce qui arrive. C'est sûr que l'adolescence est une de ces étapes-là critiques parce que c'est une période où les jeunes vont tester les limites, vont essayer toutes sortes de choses. Des fois, on peut même dire qu'ils vont être imprudents, mais ça fait partie aussi de la portion des apprentissages qui vont être faits. Le grand message derrière ça, c'est que ces jeunes-là, c'est notre avenir. Faut essayer réagir adéquatement. Lorsqu'il y a des manifestations un petit peu plus grandes, puis s'assurer qu'on accompagne bien ces jeunes-là. Puis quand je dis « on », c'est pas juste le directeur de la protection de la jeunesse, c'est toute personne qui œuvre auprès d'un jeune ou qui a des contacts avec un jeune qui peut devenir un adulte significatif pour un jeune, un modèle. C'est dans le fond, c'est qu'on s'implique, qu'on se questionne sur le regard sur lequel qu'on leur porte, qu'on réaffirme la volonté de les aider, de les protéger, mais surtout, c'est de prendre soin de ces jeunes-là parce que, d'une certaine façon, si on n'en prend pas soin, ben on vient négliger ce qui est l'avenir de notre société parce que ces jeunes-là, c'est ces jeunes-là qui vont représenter les adultes de demain, là. Alors, si on les néglige puis on n'en prend pas bien soin, ben on vient un petit peu négliger l'avenir de notre société en même temps.
quels sont ces signaux d'alarme auxquels les gens, les parents, mais les acteurs aussi impliqués auprès de ces ados-là doivent être attentifs particulièrement?
Ben, vous savez, l'adolescence, je le disais tout à l'heure, c'est une étape où on va tester les limites. Alors, c'est sûr qu'à l'adolescence, on va voir des sautes d'humeur, on va voir des actes d'irritabilité, d'impulsivité. Parfois, il y a des jeunes qui ont des difficultés de concentration. Mais parfois, il y a aussi des jeunes qui vont avoir certains comportements un petit peu plus extrêmes. Et c'est peut-être lorsqu'on voit ces comportements extrêmes-là qu'il faut commencer à s'en soucier. Expérimenter, ce que je vais vous dire, je ne suis pas en train de cautionner, mais par exemple, qu'un jeune fasse l'expérimentation de la drogue, ça ne veut pas dire qu'il est devenu toxicomane. Par contre, s'il en fait une expérimentation extrême, puis que ça le mène à en être dépendant, bien là, on se retrouve avec un problème sérieux. Alors, c'est de trouver le juste équilibre entre ce qui est les différentes étapes d'apprentissage d'un jeune puis de développement dans l'adolescence versus les comportements un petit peu extrêmes. Vous savez, si un jeune a des agirs violents, des choses comme ça, ça dépasse plus la période d'adolescence, je dirais, le développement normal d'un jeune. Alors, il faut se soucier, puis peut-être essayer de voir quels sont les bons services pour les accompagner à ce moment-là, pour éviter que les tangentes se maintiennent ou les mauvais comportements deviennent des modes de fonctionnement à l'âge adulte.
Où les parents peuvent se référer? On parlait notamment, il y a Info Santé au 81, mais il y a aussi Info Sociale. Est-ce que là, les parents peuvent appeler puis on va répondre à leurs questions?
Bien, en fait, oui. C'est un service qui est en place depuis l'été dernier. Pas l'été, dans le fond, 2017, mais l'été 2016. Les gens qui composent, c'est le même numéro qu'Info Santé, c'est le 811. Alors, les gens appellent au 811, ils ont deux choix maintenant entre « je consulte pour un problème de santé » ou « je consulte pour un problème psychosocial ». Alors, ils consultent pour le problème psychosocial et il y a des intervenants sociaux qui vont répondre, qui vont recevoir leur demande, la traiter et leur apporter un soutien immédiat s'il y a besoin d'un soutien immédiat. On a aussi une équipe de crise qui est disponible pour intervenir. Et sinon, ils peuvent aussi s'adresser localement aux anciens CLSC. Puis dans les cas où les gens sont vraiment préoccupés par le développement d'un enfant, bien, ils peuvent contacter la Direction de la protection de la jeunesse pour faire un signalement en appelant non pas au 811, mais au 1-800-361-86.
Heureusement, on a vu dans le bilan des statistiques indiquant que le taux de criminalité qui est en baisse dans la région chez nos adolescents. On relie ça à plusieurs mesures?
Bien, je pense que c'est les jeunes ont beaucoup de d'accompagnement maintenant, là, même si on a parlé des fois à certaines difficultés en milieu scolaire et tout. Je pense qu'ils sont mieux sensibilisés, on les prépare un petit peu mieux. Le recours à la délinquance, il y aura toujours une délinquance cachée, mais heureusement, dans les Laurentides, on n'a pas eu une manifestation de délits très, très graves, à tout le moins pas un grand nombre, comme parfois on peut avoir des situations un peu plus spectaculaires dans la grande région de Montréal. Mais on a des jeunes qui posent des actes globalement, depuis une dizaine d'années, on a une baisse de 25%, puis je pense que c'est au travers d'un certain nombre de programmes, dont certains offerts par les organismes de justice alternative. On en a deux sur notre territoire qui offrent des beaux programmes qui font de la prévention de la criminalité, puis ils sensibilisent bien les jeunes. Puis c'est aussi tout le rôle des policiers aussi qui, lorsqu'ils sont en interaction avec des jeunes, vont passer des messages qui vont, je pense, bien porter là, dans le sens où on le voit par les données statistiques, c'est-à-dire que nos jeunes passent à l'acte un peu moins à tous les ans, et c'est une bonne nouvelle. Fait que c'est signe que les mesures concrètes qu'on a mises en place à différents paliers, que ce soit dans les milieux scolaires, communautaires, portent fruit comme moyen d'efficacité. Là.
En terminant, j'aimerais qu'on revienne sur ce qui s'est passé au printemps dernier, les 560 dossiers qui étaient en attente d'évaluation. Il y a eu une espèce d'explosion, on dirait, de signalement au printemps qui a pris votre organisation de cours. Qu'en est-il de ces dossiers-là? Il faut dire qu'il y a des gens, il y a des enfants en arrière de ces dossiers-là en attente. Qu'est-ce qu'il y en a avec ces enfants-là?
Bien, je pense que c'est aussi la bonne nouvelle de ce bilan-là. C'est une des bonnes nouvelles de ce bilan-là. On a vécu une période d'entrée, je dirais, vraiment exceptionnelle de signalement en mars, avril et mai dernier, ce qui nous a placés vraiment dans une situation critique où il y avait presque 600 enfants qui étaient en attente d'être évalués. Alors, évidemment, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de stress pour nous, parce qu'évidemment, à chaque fois qu'on retient un signalement, puis qu'on n'intervient pas, ben on sait qu'il y a un enfant qui est potentiellement en danger là-dedans. Alors, c'est sûr que dans différents moyens qui ont été mis en place, un premier, c'est un ajout de ressources sur une base permanente. Là, le ministère nous a fait une bonne annonce au mois de fin février, début mars, en nous annonçant un investissement de plus de 800 000 $ pour accroître les services en matière de protection de la jeunesse dans la région. Alors, on a utilisé ces sommes-là, ainsi que d'autres qui ont été consenties par notre président directeur général pour ajouter du personnel de façon importante pour s'attaquer à cette liste d'attente-là puis s'impliquer rapidement dans les situations. Mais en parallèle, on n'est pas resté un petit peu sur nos lauriers. On a questionné nos façons de faire. On a revisé plusieurs de nos façons de faire, puis on a fait aussi le choix d'essayer d'alléger le plus possible certains processus administratifs pour nous rendre plus efficaces, puis s'assurer qu'on réponde de meilleure façon aux signalements quand ils entrent. Alors, comme je disais, la bonne nouvelle, c'est qu'au moment où on se parle, techniquement, il n'y a pas de liste d'attente, il n'y a plus de liste d'attente. Alors, on a réussi à résorber ça et on souhaite que tous ces efforts-là puis ces différentes modifications-là vont nous permettre d'éviter qu'on se retrouve dans une pareille situation. Et disons que un des moyens aussi, mais qui est probablement un peu plus discret, c'est que nos intervenants, il n'y avait pas juste nous avec des différentes mesures, je dirais, administratives et cliniques, c'est tout l'effort colossal qui a été fait par les intervenants qui œuvrent auprès de ces différentes familles-là, tant dans les services de première ligne qu'en protection de la jeunesse. C'est ça aussi, c'est cet effort-là collectif des professionnels qui aura permis de réduire cette liste d'attente-là. Et là-dessus, je ne peux que remercier, dans le fond, le travail, les intervenants pour leur travail, puis la qualité de leur travail, puis les efforts qu'ils ont mis là-dedans.
Directeur de la protection de la jeunesse des Laurentides, Denis Barabi, merci pour cet entretien.
Bien, ça me fait plaisir. Je vous remercie beaucoup.